20 minutes, Félix Bénard et Jacob Langlois-Pelletier avec vous jusqu'à 18h dans le retour des sportifs. Très content de le recevoir à l'émission. C'est Hugo Reich qui est avec nous. Salut Hugo!
Salut Félix, ça va bien?
Ça va très bien. Ça va mieux qu'un certain Vlad Guerrero Jr., je te dirais, mais je pense que les nouvelles sont quand même encourageantes dans son cas. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, il a quitté le match hier en 5e manche. On l'a vu faire la split sur une séquence et on va y aller de tests approfondis dans son cas. Est-ce que tu penses que c'est plus de peur que de mal dans le cas de Vlad Guerrero Jr.?
Ouais, exactement. Pour ceux qui n'ont pas tendance à voir Vlad Guerrero Jr. faire la split aussi souvent, c'est déjà arrivé cette saison. C'est pas la première fois. On n'est pas dans la découverte de nouveaux territoires, là. Vlad, c'est des choses qui arrivent à ce niveau-là. C'était un excellent jeu d'ailleurs parce que s'il ne s'était pas étiré, il y aurait eu un point de plus qui était rentré sur le jeu. Donc, a été capable de sauver un point là. Malheureusement, a dû quitter le match. On a fait rentrer Ty France qui va être capable de prendre la relève là, jusqu'à temps que Vlad Guerrero soit correct pour revenir. Mais effectivement, c'est plus de peur que de mal à ce niveau-là. Je crois qu'il va être correct. Je sais pas s'il va jouer le reste de la série. Par contre, on veut vraiment, vraiment s'assurer que Vlad soit capable d'être très fort en fin de saison pour être solide en séries éliminatoires. Mais inquiétez-vous pas, fan des Blue Jays, Vlad va revenir. C'est vraiment pas si pire que ça comme blessure. C'est simplement une élongation. Et on peut se fier sur le bâton de Ty France pour le reste de la série.
Oui, c'est exactement ce que John Schneider, le gérant des Blue Jays, a mentionné après le match. Il a dit notamment à ce temps-ci de la saison, tout le monde qu'on voit de petits bobos, ça a simplement irrité ses ischios jambiers. Il parlait de raideur dans le cas de Vlad Guerrero Jr. Les Blue Jays qui ont perdu le premier match d'une série de 3 contre les Pirates de Pittsburgh hier par la marque de 5-2. Shane Bieber, lui, qui ferait ses débuts, qui va faire ses débuts avec les Blue Jays de Toronto vendredi, un lanceur qui a été acquis par les Blue Jays lors de la date limite des transactions, Hugo. Un départ qui est quand même très, très, très attendu pour les amateurs de baseball.
Oui, très, très, très attendu, mais je crois que pour John Schneider, encore plus, parce que Shane Bieber a été la grosse acquisition des Blue Jays lors de la date limite des transactions. On est allé chercher justement pour aller chercher plus de profondeur dans la rotation. On savait qu'il revenait d'une blessure, donc juste à vous rappeler que Shane Bieber n'avait pas lancé de balle de baseball depuis le deuxième match de la saison 2024, alors qu'il portait l'uniforme des Guardians de Cleveland. Mais les Blue Jays ont pris un risque, sont allés chercher un ancien récipiendaire du trophée Cy Young. Il sait ce qu'il fait, Shane Bieber. C'est un vétéran. Il est très, très, très confiant, solide. Il a hâte de revenir au jeu. On l'a vu par quelques moments apparaître dans le vestiaire et sur le banc des Blue Jays lors des dernières séries à la maison. Mais là, a eu quelques très bons départs à Buffalo et prêt à revenir à Toronto. Il va effectuer son premier départ avec les Blue Jays vendredi. On a extrêmement hâte de le voir aller. Mais ce qui me soulage le plus là-dedans, FX, c'est de voir la rotation des Blue Jays. Ouais. Donc, on se retrouve avec Kevin Gausman, Shane Bieber, Max Scherzer, José Berríos, Tris Bassett et Eric Lauer. Et le plus gros avantage du retour de Bieber, c'est de voir qu'il va avoir moins de pression sur les épaules de José Berríos qui était au sommet de cette rotation-là. Bieber va pouvoir prendre ce rôle-là et même Kevin Gausman si jamais. Mais là, on se retrouve à avoir 6 lanceurs partants qui peuvent aller très loin dans les matchs. Et ça, d'ici la fin de la saison, c'est une habitude que John Schneider et son comité d'entraîneurs de lanceurs devraient prendre parce que justement, on veut garder la possibilité de ramener nos releveurs le plus tard possible dans les parties.
Tu t'attends à quoi pour son premier match quand même dans l'organisation des Blue Jays? Tu l'as dit, il y a eu plusieurs départs dans le triple A, dans les mineurs des Blue Jays de Toronto. Est-ce qu'il faut calmer les attentes dans le cas de Shane Bieber? À quoi qu'on peut s'attendre déjà à ses premiers matchs avec l'organisation?
Selon moi, avec Shane Bieber, on va s'attendre à une performance de, je te dirais, 4 à 5 manches. Okay. On joue contre les Marlins de Miami, donc une équipe un peu plus en bas de classement. Les Blue Jays voudront essayer de voir où est rendu Bieber par rapport à sa tolérance, soit à la douleur ou soit à son rétablissement. Donc, c'est sûr et certain que Bieber ne pourra pas lancer 8 manches dès son premier départ. C'est impossible. Maintenant, selon ce que John Schneider établit avec son équipe, selon moi, on va y aller avec un certain maximum de lancers. Si on est capable de respecter ça, on voit que la douleur n'est pas là, on voit qu'il est en confiance, même il est capable de gagner en vélocité plus le match avance, c'est quand même bon signe. Mais attendez-vous pas à une sortie très très longue face aux Marlins, et c'est pas parce que il va pas connaître de succès. Moi, j'envisage quand même une bonne sortie de son côté. Il a hâte de revenir au jeu, mais c'est vraiment plus pour limiter son nombre de lancers, un peu comme les Dodgers avaient fait avec Shohei Ohtani lorsqu'il est revenu graduellement sur la butte.
Je comprends. Les Jays qui ont 5 matchs de priorité en tête de l'Est de l'Américaine sur les Yankees et les Red Sox. Ça regarde comment pour les courses dans les différentes divisions en vue des séries en ce moment?
Ben là, c'est ça. Là, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est que justement, les Blue Jays sont capables de comme conserver leur avance à la tête de l'Est de l'Américaine. Ils sont 73-53. Par contre, ils jouent pour 500, ont perdu leurs deux derniers matchs. Donc, vont devoir vraiment prendre du rythme là, parce que on affronte les Pirates, on affronte les Marlins par après. C'est des matchs qu'on se doit de gagner. Là, on a affronté Paul Skenes hier. C'est une des raisons pour laquelle les Blue Jays ont perdu le match. Skenes est un excellent lanceur, on le sait. Mais là, c'est parce qu'il y a les Yankees qui ont une fiche de 7-3 dans leurs 10 derniers. Ils ont gagné leurs 3 derniers matchs. Donc, ça va être très, très, très important pour les Blue Jays de garder la cadence. Par contre, une équipe qui est très, très, très intéressante présentement, c'est les Tigers de Détroit. Parce que les Tigers de Détroit, avant la pause du match des Étoiles, ont connu une petite baisse de cadence. Maintenant, ils sont revenus tranquillement, 74 victoires, ont une fiche de 7-3 à leurs 10 derniers matchs. C'est quelque chose d'intéressant. Il va y avoir des joueurs, encore une fois, des joueurs de profondeur, des acteurs de profondeur dans l'alignement des Tigers qui continuent à faire de la production qu'ils ont faite tout au long de l'année. Tarik Skubal qui est au sommet, bien évidemment. Et sinon, il ne faut quand même pas surveiller dans la nationale les Phillies de Philadelphie qui sont très bons présentement, 6-4 à leurs 10 derniers. Et honnêtement, FX, que dire des Brewers de Milwaukee, la meilleure équipe dans le baseball majeur présentement, 79 victoires, sont premiers au classement général. C'est vraiment impressionnant de les voir aller avec une équipe relativement jeune. Donc, ce sera à surveiller. Et pour ce qui est des courses, on met un deuxième. Mais en ce moment, il y a une équipe qui a beaucoup, beaucoup de momentum depuis le match des Étoiles, depuis la date limite des transactions aussi. Et ça, c'est grâce à un seul joueur. Mais c'est les Mariners de Seattle, qui sont 68-58, sont dans le classement du meilleur deuxième. C'est assez intéressant de voir ça. Est-ce que les Mariners seront capables de garder le rythme et de coller les Astros de Houston, qui sont à 69 victoires? C'est vraiment intéressant, la course dans l'ouest de l'Américaine. Ce sera à surveiller. En tout cas, moi, c'est la lutte que j'aime le plus, ainsi que l'ouest de la nationale où les Dodgers présentement, ça va pas très bien, mais les Padres sont juste là à leur côté.
Ouais, et un gars qui permet aux Mariners de chauffer les Astros, Hugo, pour le premier rang de l'ouest de l'Américaine, c'est Kyle Riley qui connaît une saison exceptionnelle avec les Mariners.
Là, Cal Raleigh, il va falloir que les gens commencent à comprendre que c'est le meilleur catcher du baseball majeur. On a de la misère à le voir parce que justement, avec les receveurs, ce qui est vraiment, vraiment difficile à considérer, c'est que c'est soit qu'il y a un bon côté et l'autre est vraiment moins bon, ou l'inverse. Donc, soit ça va super bien défensivement, mais qu'au bâton, c'est plus difficile, ou l'inverse. Cal Raleigh, c'est une patch platinum sur sa mitte. C'est un récipiendaire de plein, plein, plein de prix défensifs. Il est excellent. Mais cette année, écoute, 47 circuits, 102 points produits, une moyenne de 249. Ça va très bien pour Cal Raleigh à ce niveau-là. Il doit être le joueur le plus utile de l'Américaine, selon moi. À ses 7 derniers matchs, 2 circuits, 4 points produits, moyenne de 280. C'est très, très, très intéressant. Et encore une fois, c'est une des raisons pourquoi les Mariners connaissent autant de succès cette année. Ça a été la bougie d'allumage pendant tellement longtemps, tout au long de la saison. Naturellement, le fait d'avoir gagné la compétition des circuits a comme amplifié ça. Voit très bien la balle, Cal Raleigh. Est un excellent leader pour l'équipe et avait eu une petite blessure en revenant du match des Étoiles et on avait vu la différence. Les Mariners qui avaient perdu leurs 3 premiers matchs vu qu'ils n'étaient pas là. Mais là, c'est quelque chose qui va être intéressant à voir avec l'acquisition de Josh Naylor. On sait qu'on veut créer une certaine rotation pour Cal Raleigh. L'année dernière a été le receveur qui a été derrière le mat pour le plus grand nombre de matchs durant la saison dans toute la ligue. Il faut faire attention. Être receveur, ça peut vraiment dommager le corps. Et on sait que les Mariners veulent bien prendre soin de leur receveur étoile. Donc, ça va être à considérer. Mais oui, si vous voulez voir une belle course aux statistiques là, d'ici la fin de l'année, suivez Cal Raleigh. C'est super impressionnant ce qu'il a fait.
Faut remonter à 1998, Hugo, pour la dernière expansion au baseball majeur lors de l'ajout des Diamondbacks et des Rays de Tampa Bay. Et là, il semblerait que deux villes seraient ciblées pour une possible expansion dans le baseball majeur. Et on parlerait peut-être ici de Salt Lake City et Nashville, c'est ça?
Oui, exactement. Il y a plusieurs rumeurs concernant les villes. Salt Lake City, Nashville en était. Rod Manfred qui a dit ouvertement qu'il était ouvert à peut-être faire une expansion. Écoute, moi, ce que j'ai vu aussi, c'est peut-être Charlotte et Portland. Donc, c'est vraiment les villes qu'on considère le plus. Et d'ailleurs, en faisant mes recherches par rapport à ça, Fox Sports a décidé de faire un réarrangement des divisions dans le baseball majeur si jamais Portland et Charlotte s'ajoutaient comme nouvelles équipes. Et je vous fais le portrait. Vous pouvez répondre. J'aimerais ça savoir qu'est-ce que vous pensez de ça. Moi, honnêtement, je trouve ça quand même intéressant. Donc, on aurait la Northeast, donc nord-est de l'Américaine, avec les Yankees, les Mets, les Red Sox et les Phillies. On aurait la Centrale Atlantique de l'Américaine avec les Orioles, les Nationals, les Pirates et les Guardians. On aurait la division des Grands Lacs avec les Twins, les Tigers, les Brewers et les Blue Jays. Et on aurait la division sud-est de l'Américaine avec les Braves, les Marlins, les Rays et l'équipe de Charlotte. Donc, on voit qu'il y a plusieurs équipes qui voyagent là-dedans, mais encore une fois, comme Rob Manfred l'a dit en conférence de presse, ce serait pour être encore plus stratégique dans nos déplacements géographiques, ce qui aurait du sens. Maintenant, dans la nationale, centro-ouest, si vous voulez, on aurait les Cubs et White Sox, les Cards et les Reds. La centrale, on aurait les Rockies, les Royals, les Rangers et les Astros. Dans la sud-ouest de la nationale, les Dodgers et Padres, les Angels et les Diamondbacks. Et dans la nord-ouest de la nationale, les Mariners, les Aces, les Giants et l'équipe de Portland. Honnêtement, c'est quand même des hypothèses qui peuvent être réalistes. C'est des villes qui peuvent avoir clairement un marché de baseball. Et je trouverais ça intéressant de voir ces divisions-là toutes réaménagées pour créer des nouvelles rivalités.
Ouais, j'ai hâte de voir ça aussi. Ça va être intéressant à suivre. Et il faut quand même le dire, là, je l'ai mentionné, mais depuis 1998 qu'on n'a pas eu d'expansion dans le baseball majeur. J'ai hâte de voir comment tout ça va se matérialiser dans le cas de la MLB. Il faut dire aussi que la MLB rend hommage à la Little League World Series, Hugo.
Oui, exact. La Little League qui devient en fait la Little League Classic où ça fait quelques années que les majeurs apportent des équipes dans ce fameux tournoi-là du Little League World Series. En fait, ça fait depuis 2017 que maintenant des équipes se transportent au tournoi. Et ça, honnêtement, de voir toutes les jeunes joueurs de baseball qui se transportent à Williamsport, qui est là, qui participent au tournoi, qui ensuite peuvent voir leurs idoles jouer. Honnêtement, c'est vraiment, vraiment, c'est impressionnant à voir. C'est vraiment cool à voir. Cette année, c'était les Mets qui faisaient face aux Mariners. On a eu droit d'ailleurs à un circuit de Cal Raleigh lors de ce match-là. Et naturellement, les gars, les petits gars sont capables de vraiment s'identifier à certains joueurs et moquent certains joueurs. Juan Soto, vous allez voir ça sur les réseaux sociaux, c'est super intéressant. Le fameux Soto Shuffle, donc le petit mouvement que Juan Soto fait entre les lancers afin de se préparer au prochain, c'est vraiment quelque chose d'imité dans le baseball majeur parce que c'est vraiment unique à Juan Soto. Et là, tu voyais tous les petits gars dans les estrades en train d'imiter Juan Soto. C'est vraiment, vraiment cool. Oui, donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la Little League World Series, rapidement, c'est un tournoi international des 12 ans et en bas où tu peux voir vraiment là, du bon talent. Il y a des joueurs vraiment, vraiment impressionnants, là, surtout des lanceurs qui peuvent lancer extrêmement rapidement à un jeune âge. Donc, c'est vraiment une belle plateforme, de la belle visibilité pour les futurs joueurs de baseball.
Ouais, c'est une belle initiative de la part du baseball majeur. Il y a Mike sur la messagerie texte qui dit « On n'a pas parlé des expos pour une expansion dans le baseball majeur. J'ai pas vu ça passer nulle part, Hugo, concernant les expos, malheureusement. Mais ça fait pas partie des destinations éventuelles de Montréal pour une équipe d'expansion dans le baseball majeur. »
Ben non, encore une fois, la grande question des expos, c'est où peut-on recevoir une équipe, c'est ça qui est difficile. Par contre, encore une fois, tu sais, Montréal a fait partie de quelques rumeurs concernant les propos de Rob Manfred, évidemment, mais ça va pas être quelque chose qui va être concret. Tu sais, on parlait de Puerto Rico aussi, Mexico qui sera à l'extérieur des États-Unis, mais on connaît Manfred, on connaît aussi sa préférence pour les marchés américains, donc je pense moins que ça va être plausible. Je pense plus que ça peut arriver, comme on l'a dit, avec Nashville, des Salt Lake City, Portland, Charlotte, etc. On parlait aussi de la Nouvelle-Orléans et Columbus. Ça, je pense que c'est quelque chose qui peut être plus réaliste à ce niveau-là. Mais malheureusement, tant et aussi longtemps que le stade n'est pas là, FX, pas d'équipe.
Pas d'équipe, malheureusement, pour la ville de Montréal. Hugo, un gros merci pour ton temps, pour parler baseball avec nous, c'est bien apprécié.
Merci à toi, c'était bien le fun.
Passe une belle soirée. Alors, Hugo Reich qui est avec nous pour nous parler des différentes nouvelles dans le baseball majeur. Restez là. Dans 2 minutes, on a un concours pour vous, une paire de billets à gagner pour un événement qui aura lieu à la Place Belle à l'automne prochain. Restez là pour pouvoir gagner cette paire de billets.